Parashat Beshalach. Donc, la vérité, c'est que c'est pas plus mal. Bon, si c'est mal, mais j'essaie de me trouver des réconforts. C'est pas plus mal qu'on n'ait pas étudié la semaine dernière, parce que, en fait, la Parashat Beshalach est la suite de la Parashat. Bon. Oui et non, c'est la suite du milieu de la parasha de Bo. C'est-à-dire que la parasha de Beshalach, c'est juste après la fin de Makat Bechorot. Bon, mais sauf que dans la parasha de Bo, il reste encore le 12e et le 13e chapitre, qui sont Keilou, genre entre les deux. Bon, en fait, c'est pas entre les deux, c'est l'histoire du Korban Pessah, tout ça, machin, machin, mais. Qu'est-ce qui se passe?
Je suis Kébéréchit.
Tout va bien. De toute façon, il y a des textes. Donc, les amis, on termine les Makot. Pharaon nous a libérés. Et d'ailleurs, on n'a pas fait ça cette année, mais on l'a déjà fait ensemble. On a déjà vu que Pharaon nous a libérés parce qu'il a compris que Béhémet, Am Israël, il valait le coup. Il a compris, au bout de 10 Makot, que c'est bel et bien par le peuple juif que Dieu a décidé de libérer son peuple et de se dévoiler par son peuple. Donc, El Malasov, Pharaon a compris que ça doit passer par le Am Israël. Ok ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce marteau ?
Pour la construction. Hein? C'est pour la bonne cause.
C'est pour la bonne cause. Hein? C'est ça. Donc.
On arrive au toit.
Ça y est, on arrive au toit. Ouh là là. Alors par contre, toi tu fais, vous faites partie du board. Ne faites pas l'erreur de l'empressement. Non mais je te parle pas de la construction. La construction elle se passe très bien. Mais l'erreur de l'empressement, il est sur une fois que c'est fini, mais pas vraiment fini. Ça, c'est fini. Mais il manque là une ampoule, et il manque là un coup de peinture et tout ça.
Quand ça finit, ça recommence.
Il faut finir. Parce que l'ampoule qui va manquer, elle va manquer après pendant 7 ans. Avant que quelqu'un se dise que peut-être qu'il manque une ampoule.
Mais on va dans une autre dimension sur la chute.
Quoi ?
On va dans une autre dimension. On va déjà un plein temps ici, et puis on gère les tours.
Peut-être, mais couper le ruban, c'est quand c'est fini. Ceci déjà, on attend. Pas comme la ligne Tel Aviv-Jérusalem. Exactement.
Voilà, elle marche, mais là, ça y est.
Il paraît même qu'il y a des gens qui font des interviews dans le train.
Alors, oui.
Je jure. Donc, Pharaon nous a laissé partir. Ça y est. Parce qu'il a compris et accepté que c'est par nous que ça allait passer. Comment je sais qu'il a bel et bien accepté? Comment je le sais?
C'est forcé, hein?
Forcé. Non? Non, il n'a pas été forcé.
C'est ce qu'on a dit, maman, elle aura couru après. C'est pas...
Il n'a absolument pas été forcé pour une raison très simple. Dès le départ...
Il dit ma cote, c'est pas forcé?
Non.
Ça va, c'est bien. C'est...
Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Dès le départ, Pharaon sait qu'il n'y aura pas de Maka 11.
Ah, dès le départ.
Puisque, dès le départ, on nous dit, Dieu va dire à Moshe de lui dire, « Shlach et ami veya avduni, laisse partir mon peuple qu'il me serve, veimma'en ata leshalea, et si tu refuses, inne Anochi oreg et bincha bechorecha. Je vais aller jusqu'à tuer ton premier-né. » Donc Pharaon sait que ça va jusqu'à la mort des premiers-nés. Ça va pas plus loin. Il a passé le cap de la mort des premiers-nés. Pharaon sait qu'il n'y aura pas de Maka 11. Donc, s'il n'avait pas envie de les laisser partir, c'est bon. Pars pas. Ah, tu dis que Dieu, il dit à Moshe de dire un truc à Pharaon et Pharaon et Moshe ne lui dit pas. Bah, à qui il s'adresse? Veimma'en atal le shaleach. qui on parle. C'est pas Moshe qui parle. Donc, forcément qu'il a dit ça à Moshe pour le dire à Pharaon. Donc, si vous voulez, si Pharaon nous a laissé partir après la Makat Bechorot, c'est pas parce qu'il avait peur de se prendre encore un truc encore pire, mais c'est parce qu'il a intégré le fait que Béhémet, la source de bénédiction, c'est Israël et c'est pas lui. D'ailleurs, bah, il leur demande. Krou, tsou, krou et tonrem kasher dibartem valechou, ou berachtem gam oti. C'est-à-dire qu'il voit dans le peuple juif une source de bénédiction. Zéou, Chazar Bitchouva, il nous a laissé partir. Et ça lui a pris 10 makotes.
C'est quand même contradictoire tous ces trucs-là, parce que
quoi?
Il nous a laissé partir, il a été charnéar, et puis après
je sais pas. Pour l'instant, j'en suis à jusqu'à maintenant. Bah, le fait qu'il faut les charnéar et paro, c'est normal. Mais c'est normal, Rabotai. Mettez-vous deux secondes à la place de Pharaon. Il occupe quel poste, Pharaon, là en ce moment? Enfin, avant les makotes.
Suprême, le plus haut.
Et c'est-à-dire le chef du monde.
Oui, c'est ça.
Il est le responsable de la bonne marche de l'univers. C'est une responsabilité énorme. Moshe vient et lui dit, écoute, tu sais quoi? La force de travail du pays, qui fait que ce pays peut être la première puissance du monde, on te demande maintenant de l'arrêter, de nous la donner. En d'autres termes, Moshe, il demande l'effondrement de l'Égypte.
Donc c'est ça, il va perdre la bracha.
Les Bnei Israël qui partent, c'est l'effondrement de l'Égypte. Voilà, je mets le pied, comme ça, ça ne bougera pas. La moindre des choses, c'est que Pharaon n'accepte pas. Pourquoi tu veux qu'il accepte?
Il a raison de ne pas accepter.
Il a totalement raison de ne pas accepter. Rechoute.
Mais dans quelle mesure il a un livre? Parce que Hachem, il va endurcir son cœur, ainsi que celui des nouvelles. Donc, alors, à ce moment-là, il a levé cette...
Ça, c'est une marloquette, mon ami, entre le Rambam et Rabbi Ovadia Sforno. Pour le Rambam, le fait qu'il lui a endurci son cœur, c'est pour lui laisser son libre arbitre. Ben oui! Ben oui! T'imagines, tu te balades dans la mer et tout d'un coup tu vois le fleuve en sang, tu vois les sauterelles, tu vois le truc. Un mec normalement constitué, il dit ok, c'est bon. C'est bon! Mais Dieu, il veut pas qu'il dise ok, c'est bon parce qu'il est impressionné par la puissance de Dieu. Il veut qu'il soit d'accord avec ce qui est en jeu. Et donc, Vaïchabed te lève par haut pour qu'il soit capable de résister aux sentiments. Qu'il marche avec sa tête. Et pas avec ouh, c'est trop dur! Pour Rabbi Ovadia Sforno, ça veut dire qu'il lui a pris son libre arbitre. Ça y est. Mais le Rambam n'avait pas du tout cet avis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose très importante. Pharaon, c'est normal qu'il ne laisse pas les Bnei Israël sortir. Et si tu veux sortir, enfin, on peut me prouver pourquoi tu mérites de sortir. Et une année, on avait fait toutes les makotes pour expliquer c'est quoi l'argumentaire à chaque fois. Et au final, Pharaon dit « Ok. Ok. » Je vous le répète en super condensé.
Ok quoi?
Ok, je comprends que c'est par vous que le dévoilement de Dieu il doit passer. Et non plus par moi. Alors, je vous le refais
c'est
très rapide.
C'est ça qui n'est pas compréhensible.
Pourquoi pas?
Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'il leur court après, justement, après leur avoir donné leur
permission? J'ai dit après, je ne sais pas encore, deux secondes.
Ah bah, c'est là, ah, allez, nous on connaît.
Zrizim Magdimim, tu vois, okay. Ça c'est le prina des tzadikim. Tu veux, tu vas aller trop vite. Là, athlète.
C'est pas que je veux aller trop vite, j'essaie de
on va y répondre, on va y répondre. Non mais attends, l'incohérence que tu amènes, elle est normale. Je vais y répondre.
J'essaie de comprendre.
Non, t'as raison, on va y répondre ce matin. Mais je dis juste. Deux secondes. D'abord, comprenons comment il a été convaincu. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le truc en long, en large et en travers, mais en deux minutes. Le premier argument de Pharaon pour dire « vous n'avez pas à sortir », c'est que... Bah, on est pareil, vous et moi. Pourquoi est-ce qu'on se séparerait? Et Moshe vient lui expliquer par les trois premières plaies que nous ne sommes pas pareils à lui, que nous sommes les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chaque plaie, la 1, la 2 et la 3, viennent expliquer que nous avons hérité des qualités successivement de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Abraham qui était capable de s'élever au-delà de la nature lorsqu'il a traversé le fleuve et qu'il n'est pas mort dans la fournaise de Nimrod. Ainsi, lorsque la nature est frappée, le fleuve, bien lui et ses descendants ne sont pas frappés. Les grenouilles qui faisaient la volonté de leur créateur, même en y laissant la vie, puisqu'on nous dit dans le verset que les grenouilles étaient rentrées dans les fours des Égyptiens, bien font référence à Yitzhak et sa qualité de Messirut Nefesh sur le Misbéach, qui est passé également à ses descendants, puisque les grenouilles ne nous ont pas attaqués. Et enfin, les Kinim, c'est très clair, puisque Yaakov dira, le jour de sa mort, « Ne m'enterre pas en Égypte, parce qu'un jour, la terre d'Égypte deviendra des poux, et ça va me gratter dans la momie. » En d'autres termes, nous dit Rachid, la deuxième explication, enfin la troisième, c'est « Je ne veux pas qu'on fasse de moi une idolâtrie. » Effectivement, quand il y a eu la plaie des Kinim, eh bien, les Égyptiens ont dit « Etzba Elohim hi ». Ah, ça, c'est Dieu. Donc, cette qualité de dévoiler le divin est la qualité de Yaakov qui a été transmise à ses enfants. En d'autres termes, les trois premières plaies nous disent « Nous sommes différents des Égyptiens puisque nous sommes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. » Très bien. Mais, nous dit Pharaon, « Oui, mais d'accord, mais vous êtes liés à nous. C'est vous qui avez décidé de venir chez nous. » À quelle époque?
Il y a deux
ans. Yosef. Donc la quatrième plaie vient montrer est-ce qu'on est véritablement lié à eux. Et cette quatrième plaie, c'est la plaie du mélange, Arov, Irbouv. Est-ce qu'on est mélangé à eux? Et on voit que non. Yosef ne nous a pas mis en Égypte, il nous a mis à Goshen. C'est pour ça que la quatrième plaie nous dira le verset que Dieu fait la différence entre la terre de Goshen et le reste de l'Égypte. Et non pas entre les Juifs et les Égyptiens. Bon ok, donc on est descendant d'Abraham, Isaac et Jacob et en plus on n'est pas vraiment lié à vous. Mais nous dit Pharaon, mais on est tous des êtres humains. À ce titre-là, vous ne pouvez pas vous séparer du reste de l'humanité. Seulement, par les trois prochaines plaies, Moshe va expliquer que, ben non, les Égyptiens ne sont plus vraiment des êtres humains. Ils ont chuté dans les trois chutes morales de l'humanité. Ils ont hérité de ces déchéances. La première, au déluge, avec la violence, la mort, c'est la plaie de Dever, la mort, la peste. Ensuite, ils avaient un problème avec la Avodah Zarah, la tour de Babel. Et on voit que la plaie de Shrin, la plaie des ulcères, pour la faire, Moshe a dû reproduire en petit la tour de Babel. Il a pris de ce qui avait cuit dans le four et il l'a monté vers le ciel. C'est comme ça qu'on a fait la tour de Babel. On a fait des briques qui ont été cuites dans le four et qu'on a empilées vers le ciel. Et enfin, dans la troisième chose, c'est... Non, Barad.
Septième.
Oui, septième.
La huitième.
Non, septième.
C'est la grève.
T'as jusqu'à Pessah pour te rappeler. Dam, Tzvardea, Kinim, Arov, Dever, Shrin, Barad, Arbe, Rocher, Makad, Beforot. Donc Arbe, c'est la huitième. Là, on est à la septième. Barad, ce sont donc, c'est la grêle. Et on a dit, ça c'est Keneged, la déchéance de Sdom vers Amora. On avait déjà expliqué ça longuement, qu'ils avaient cru atteindre l'idéal. Et Barad, c'était le jugement de l'idéal, puisque c'était un feu avec de l'eau en même temps. Shamaï. Ok ? Donc, parmi les trois, avec ces trois plaies-là, lui on a expliqué qu'en fait, non. Vous, les Égyptiens, vous n'êtes même plus des êtres humains. Tov. Et donc, le dernier argument de Pharaon, c'est de dire, ok, certes, nous sommes, enfin vous, vous êtes supérieurs parce que vous êtes les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. En plus, vous n'avez jamais été mélangés à nous. Et en plus, nous, on a chuté. Aval, nous sommes tous des créatures de Dieu. Et à ce terme, à ce titre-là, vous ne pouvez pas vous séparer de nous. Et donc, Moshe va devoir rejouer petit à petit la création du monde pour voir est-ce que dans la création, Israël prédomine ou c'est l'Égypte. Et donc, on va commencer par le moment où il y a eu plein de créations. C'est la notion de Harbé, même si ça ne s'écrit pas pareil, on ressent le mot Harbé. Il y en a beaucoup, et d'ailleurs les sauterelles ne peuvent être dangereuses que quand elles sont beaucoup. Donc c'est le moment où il y a plein de créations, où là encore on voit que les Égyptiens sont frappés et pas nous. Rocher, c'est le moment de l'annihilation de la création, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle Yesh Me'ain. Il y a eu beaucoup, mais au départ il y avait Kloum, Zeh Rocher. Et enfin, Bechorot, Zeh Areshit. Est-ce que dans la pensée créatrice de Dieu, il avait déjà comme centralité Israël ou l'Égypte? Et on voit encore une fois que les Égyptiens sont frappés et pas nous. En d'autres termes, ça y est, à ce moment-là, on a rejoué toute la création du monde et il a été montré à Pharaon que Israël prédomine. Et donc, il accepte de les laisser partir. Il a été convaincu.
Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit.
Aval, nous dit Rabbi Eliyahu, ah ouais, mais si tu dis qu'il a été convaincu,
pourquoi il court derrière?
Pourquoi il leur court derrière?
C'est aussi simple.
Maintenant qu'on a dit tout ça, on peut arriver à ta question.
Ton arabe.
Ok? Aziala. Bémet, pourquoi il nous court derrière? C'est le mouvan.
Il a des remords.
Non, il n'a pas de remords. Pharaon est quelqu'un d'extrêmement pointilleux, d'extrêmement clair dans sa tête. Et donc, lorsqu'il. Ouais, il est cartésien. Et lorsqu'il veut vérifier quelque chose, il veut le vérifier jusqu'au bout.
Ils n'ont pas dit merci en partant.
Hein?
Ils n'ont pas dit merci en partant.
Qui a pas dit merci?
Les Hébreux.
Merci quoi de m'avoir fouetté pendant 210 ans Pharaon vient de vérifier que l'essence profonde du peuple d'Israël mérite de sortir. Mais il y a une différence entre l'identité profonde du peuple juif et
la réalité.
Non, le peuple.
Le comportement concret, la réalité du peuple juif. Parce que je vous rappelle qu'en Égypte, les Bnei Israël, c'est moyen, hein, c'est moyen en termes de tzidkout.
Oui, puis ils ont introduit des idoles, ils se sont mêlés au
peuple. Ils sont rentrés en plein dedans, pas c'est moyen.
49e degré d'impureté.
Ouais.
Nous dit le livre de Yéhézkel, chapitre 20. Qu'on est tombé dans toutes les dépravations de l'Égypte. Et je vais pas te faire un dessin, mais c'est pas bien.
Et d'un autre côté, on dit qu'ils ont gardé les noms, ils ont fait ceci et cela.
Non, 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 t'as pas compris, c'est pas d'un autre côté. Ils ont gardé trois choses.
Ben voilà,
c'est génial, tout le reste. Tout le reste, c'est les Égyptiens. C'est-à-dire qu'ils s'habillaient encore avec une kippa, ils s'appelaient encore Goldberg. Voilà. Et il s'appelait et il parlait encore yiddish.
Benamou.
Benamou. Ouais. Chez vous, c'est Benamou. C'est vrai? Alors, je vais te donner deux exemples. Un exemple ashkénaze et un exemple séfarade. Qui sont tous les deux tirés du cinéma. Il y avait un film, je ne sais pas de quand il date, avec Brad Pitt qui s'appelait Snatch. Et le film s'ouvre sur un groupe de trafiquants de diamants et d'argent à Anvers, qui sont tous payés, chapeaux, barbe, ce que tu veux. C'est-à-dire, ou à Anvers ou à New York, je ne me rappelle plus où ça commence. Ok? Pourtant, le mec, il s'appelle Finkenstein, il parle en yiddish et il est habillé comme un super rabbin. Et c'est le plus grand des truands. D'un autre côté, c'est un cinéma qui vient de la France, qui nous met en scène un monsieur qui s'appelle Serge Benamou et Patrick Abitbol, et Edith Vibert, et ils ont tous un chai, et ils parlent tous avec les mains, et ils sont tous Shabbat et Shabbat. Et il paraît que la vérité, si je mens, c'est pas des tzadikim.
Il est truand plutôt, oui.
Donc, tu es en train de me dire, en Égypte, ils avaient la grosse magaine, avec les poils qui sortent de la chemise ouverte parce qu'il fait chaud.
Là, attends, ouais.
Ça, c'est pas drôle. Ils parlaient avec des mots en arabe dedans parce que sinon ça le fait pas. C'était rasra toutes les 5 minutes, ou c'était dahka, il y avait la dame haut, ce que tu veux.
On a évolué depuis.
Non, je pense pas.
On
est tous
pareils.
Mais quoi?
Faut le défoncer là.
Mais c'est vrai, je suis le premier à kiffer la boutargue.
Là oui.
Elle m'a la zone. Quand c'est bon, c'est bon. Maintenant, donc tu dis, ils avaient gardé leur langue, leurs habits et leur nom. ça fait pas de tzadikim. Hein. Ça fait d'eux des gens qui pourront un jour sortir de leur dépravation. D'accord ? Mais c'est pas parce que tu as continué à t'appeler comme tu es à bout de boule que tu es forcément un tzadik. C'est pas parce que tu dis sur la Torah d'Israël que tu es un tzadik. Et c'est pas parce que tu as une grande chaîne avec marqué ton nom en hébreu que tu es le plus grand des tzadiks. Tout le reste, à part ces trois trucs-là, ils étaient pourris. Asmar Patli, qu'ils parlent en yiddish s'ils vont faire la Avodah Zara. Ils le font en yiddish. Nounou. Mazdozer. Donc, ils étaient pourris. Et à ce titre-là, Pharaon, il dit, hop, 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 hop.
Ils sont pas méritants.
Ils méritent pas plus que nous, concrètement. Alors pourquoi il a attendu 3 jours? Mais il a attendu pour une raison très simple. 3 jours, c'est Chazaka. 3, c'est Chazaka. C'est-à-dire, c'est une réalité. Il vient de les libérer. Tant qu'ils étaient esclaves, ils ne sont pas responsables de leurs actes. Un esclave, il n'est pas du tout responsable au niveau halakhique. C'est son maître qui décide. Donc, tant qu'ils étaient esclaves, ils étaient pourris. Mais Pharaon, il dit, ok, mais je ne peux pas les juger en tant que tel. Ils sont esclaves. Ça fait 3 jours qu'ils ont été libérés. Ils ont donc chazaka d'être des hommes libres. Et regarde comment ils continuent à se comporter.
Il y a un petit détail, c'est Hachem a donné à Noémie avant de sortir de, avant de sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'ils avaient donc les Israël, ils avaient conscience qu'ils pouvaient donc dominer un petit peu la nature. Donc ils étaient en partie un petit peu libres. Ils avaient déjà...
Attends, excuse-moi. Tu es en train de me parler de la Néoménie,
oui.
De Kiddush HaKhodesh,
oui.
Et en cela, il domine la nature. Pourquoi tu dis qu'il domine la nature?
C'est-à-dire qu'il domine le temps. Il domine le temps. C'est-à-dire qu'ils ont conscience de que ce temps, et donc ils arrivent à dominer ce temps.
Tu es en train de me dire que... Attends, tu es en train de me dire que les Égyptiens n'avaient pas de notion du temps?
C'est Hachem qui donne ce mot-là. Donc il a fait réaliser donc, que ça existe.
Je ne comprends pas ce que tu dis. Hachem nous dit qu'il faut changer de calendrier.
Ouais.
Ça, c'est une réalité. Il faut changer de calendrier.
Non,
Dieu nous dit de changer de calendrier. Je suis d'accord avec toi. Mais donc, ça veut dire qu'avant, il y avait
un autre
calendrier. Bien sûr qu'ils avaient un calendrier, les Égyptiens, qui commençait par Tichré, qui commençait pas par Nissan. Le chidouche de Dieu, c'est que nous, on veut changer notre perception du temps. Le temps, il était déjà là avant. Et les Égyptiens, ils avaient très bien leur notion du temps. Seulement, tu choisis comment tu perçois le temps. Est-ce que le début de l'année, c'est le moment de la résurrection, du renouveau? Ou est-ce que le début de l'année, c'est le moment où tout est en train de mourir? Et ça va déterminer ta perception du temps, ton regard sur la vie. Et donc, Akadosh Baruch Hu, quand il vient sortir, il nous dit, maintenant, vous n'allez pas avoir un regard pessimiste sur le monde, mais non, il faut avoir un regard optimiste. Et ça ne veut pas faire, ça fait pas de nous des gens supérieurs parce qu'on domine, on domine rien du tout. Ok ?
On a une autre façon de comprendre.
D'accord. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Parce que la question est vraiment vraie. À tel point, elle est vraie que lorsque Pharaon nous poursuit, on a peur. On a peur. Alors, je vous ai amené dans la feuille. Regardez la source numéro 6. Ok ? Vayechazek Hashem et lev paro, melech Mitzrayim, vayirdof acharei bene Israël. Donc ça, c'est ce que tu as dit. Les poursuit. Ou bene Israël yotzim beyad rama. Mais les bene Israël sont sortis la tête haute. Beyad rama nous dit Rashi, enfin pas Rashi, c'est Onkelus, il traduit en disant Resh Galei, Berosh Galoui. La tête haute. Ok? Et là, alors, on n'a peur de rien. Sauf que, il y a marqué comme ça. Vaïrdefu Mitzrayim Achareem. Les Égyptiens les ont poursuivis. Vaïsu Otam, Vaïsigu Otam Chonim Alayam. Kol Sus Rechev Paro, ou Parashav, Vechelo, Alpi Achirot. Ils venaient Baal Tsefon. Combien ils sont? L'armée égyptienne qui poursuit
600.
600 et 3 par truc, ça fait 1800.
600 chars.
600 chars. Disons qu'ils font peut-être 2 ou 3 par char. Voilà. Allez. 2000. Quoi ? Chech Meodrechev Bakour, c'est dans la paracha. Disons qu'ils sont 3. Il n'y a pas marqué, mais disons. Allez. 2000 personnes. Ils doivent avoir aussi peut-être des fantassins un petit peu. Allez.
Quoi ? Mais
qui avait... Oui, qui courait. Non. La cavalerie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus tardif dans les guerres humaines. C'est, on n'a pas encore la technique d'être sur le cheval et de se battre sur le cheval. La cavalerie est quelque chose qui va apparaître seulement beaucoup plus tard. Non, pas dans les westerns non plus, il ne faut pas exagérer. Hein ? Non, tu l'as poussé
non,
un peu
Alexandre
loin aussi.
Avait,
déjà, Alexandre avait de la cavalerie. En Occident, on va oublier ça. C'est-à-dire que le Moyen-Âge va arrêter la cavalerie parce que les armures des chevaliers sont trop lourdes. Ouais. Mais bon.
Est-ce qu'Abraham avait des chars ?
Des chars ?
Oui.
Non, mais il y a une différence entre la cavalerie, c'est-à-dire tu montes sur un cheval et tu te bats sur le cheval, et tu es sur le char tiré par des chevaux. Je dis que la cavalerie, c'était quelque chose qui n'était pas utilisé. Les chars, oui, bien sûr. Parce que justement, tu as un conducteur qui se concentre sur la route, et il y en a d'autres qui sont là avec leurs arcs, leurs lances, machin. Mais c'est beaucoup plus dur de conduire et de se battre en même temps. C'est-à-dire ? Donc les cavaleries n'étaient pas utilisées en Égypte. Mais par contre, tu avais des gens à pied. Ça oui, donc les armées. Donc disons qu'il y avait 2000... Hein ?
On les avait sur place.
Non, mais disons que tu avais 2000 personnes en char. Disons que tu avais le double. Disons que tu avais le double de soldats. 5000 personnes. On est 600 000. Je veux dire.
Ils avaient des armes quand même. Des guerriers. En face, c'était pas des guerriers.
Je veux bien que c'était pas des guerriers. Mais tu comprends que bon. Et puis, Koutz misait que nous aussi, on a des armes, puisqu'il y a marqué Vechamushim alu bene Israël. Donc, on est aussi armés. Et même si on est moins bien entraîné et tout ça. 100 000. Donc, ok, c'est quoi ? Ils vont réussir à nous en tuer 20 000. Mais au final, on va battre les 5 000. Ok ?
Mais il y a une question qui pointe là. Comment ça se fait que le nombre, malgré le nombre, ils ont eu peur ?
Ah, c'est ça le truc. Sûrement, c'est ça le truc. Alors regardez comment
parce
continue le verset.
C'était des
zombies. Regarde le verset. Ou paro écrive. Vous savez quoi, ou paro écrive ?
Il s'est battu ?
Non. Il se carève. Mais tu as raison que c'est une notion de combat, de crave. Et tu as notion aussi, tu as raison aussi, même si tu ne l'as pas dit, que c'est une notion de. Quand on dit, comment on dit l'écrive ? L'écrive, c'est quoi dans la Torah ?
Ah, de
Corban.
Corban.
Okay. La notion de l'écrive, parce qu'on aurait dû dire ou paro itkarev.
Non.
Paro écrive, il y a cette notion de Corban qui est dans l'histoire. De quoi parlons-nous ? Et là, on nous dit, Paro écrive, va yissou bene Israël et enem, veine mitzraim noseh acharem, va yire ou meod. Et ils ont eu très très peur.
Si on dit qu'ils sont sortis armés,
pourquoi ils ont eu peur ?
Ça devient incompréhensible.
Ben oui. Ben oui. Donc, s'ils sont armés, qu'ils sont beaucoup plus nombreux, qu'est-ce qu'ils s'en fichent de voir 5000 Égyptiens qui les poursuivent ?
Ouais.
Ils vont en faire qu'une bouchée. Ok, nous, non, je veux bien qu'il y ait le poids de l'histoire, mais j'aurais accepté que tu me dises ça s'ils n'étaient pas partis armés.
Mais c'est des esclaves.
Tout ça j'entends, ils sont moins préparés, d'abord, venez, on remet les choses en contexte. D'abord, un, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus esclaves.
Exactement.
Pendant toute la période des plaies, ils n'étaient plus esclaves. Que ce soit 6 mois ou 1 an et demi, de toute façon, ils ont le temps de se remettre un peu dans le bain. Deuxièmement, ils ont pris des armes avec eux. Troisièmement, oui, ils sont moins entraînés, bien sûr. Ils vont avoir plein de pertes. Mais au final, on va gagner. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ont peur ? Eh bien, quand on regarde les versets qui sont un petit peu énigmatiques, eh bien, on est obligé d'aller se réfugier un petit peu dans le Midrash. Car le Midrash nous dit qu'est-ce qui s'est passé. À ce moment-là, j'ai amené ici, où est-ce que je te l'ai amené ? Je ne l'ai pas amené, je te l'ai amené ? Non. Je te l'ai pas mis, alors je vais te le dire comme ça. B.A.L.P. Le Midrash, la chose suivante. Rashi reprend le Midrash. Il dit que lorsque les Égyptiens sont arrivés, il n'y a pas marqué « Oum vayir oum »« Vayissou ben Israël et enem veine hamitzrim nos'im achareem » Il y a marqué « Veine mitzraim nos'ea » au singulier. D'autre part, il y a marqué qu'ils ont levé les yeux. La set enaim, ça veut dire lever les yeux vers le ciel. Et ils ont vu l'Égypte. Me dit le Midrash qu'ils ont vu l'Égypte. Ils ont vu dans les cieux l'ange représentant l'Égypte, qu'on appelle Mitzrayim Saba, c'est-à-dire le concept spirituel qu'est l'Égypte dans les mondes supérieurs, rentrer dans le tribunal céleste et dire à Dieu, ils sont en train de sortir des îles, mais Elou Ovdei Avodah Zara, nous les Égyptiens, nous sommes des idolâtres, Aval Elou Gam Ovdei Avodah Zara. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Madoua atame abed elou mipene elou. Pourquoi tu fais gagner cela, enfin, tu fais perdre cela par rapport à cela? Est-ce qu'il a raison de dire cela?
Il a raison.
Eh bien oui, façon, totalement. Nous sommes pourris, eux sont pourris. Pourquoi est-ce que ce serait nous qui gagnerons? Et c'est une vraie question qui fait peur à tout le monde. Parce qu'effectivement, c'est Nakhon. Pharaon poursuit les Béné Israël. Tu sais pourquoi? Parce que Pharaon, c'est un Talmid Chacham. Et Pharaon, il a étudié la lettre 555 du Rav Kook. C'est évident. Il faut imaginer que Pharaon d'Égypte n'a pas étudié le Rav Kook. Tout le monde étudie le Rav Kook, hein? En plus, il y a même des gens qui font des vidéos sur YouTube de quelques 6-7 minutes pour expliquer le Rav Kook. Donc c'est évident que tout le monde a étudié également Pharaon. Et le Rav Kook, il a une lettre qui est la lettre 555. Et il n'était pas tunisien. Et pourtant. Et dans cette lettre 555, le Rav Kook, Yigret Takana, nous explique qu'il y a deux dimensions de Kedusha dans le peuple juif. Une s'appelle la Segula. Et l'autre s'appelle la Bechira. La Segula, c'est quoi ?
La naissance.
C'est je suis kadosh parce que kacha.
Je suis né comme ça.
Voilà, t'es né juif, t'es kadosh. Ça vient de qui?
De tes parents?
Non. De Abraham, Yitzhak, Yaakov.
Ah ouais, mais c'est d'accord. Enfin, c'est la naissance.
C'est pas parce que tes parents c'était des gens bien. C'est parce que tu es le descendant d'Abraham, Yitzhak, Yaakov et que Dieu a fait une alliance avec toi. Ok? Ça, c'est la ségoula. La bechira, ça dépend de tes actions.
C'est toi qui choisis.
Ouais. C'est toi qui choisis. Tu fais bien ou tu fais pas bien. Dit le Rav Kook, il est évident que la Kdusha de la Segula est bien plus grande que celle de la Bechira.
Pourquoi?
Parce qu'elle ne dépend pas de toi.
C'est quelque chose.
J'ai pas dit qu'il y a plus de mérite ou pas de mérite. Qu'est-ce qui est plus élevé? C'est ce qui a été donné à Abraham, Israël et Jacob. Parce que quoi que tu fasses, tu n'arriveras pas au niveau d'Abraham, Israël et Jacob.
La racine.
Aval, bien que la Segula soit plus grande, Dieu a prêté un serment comme quoi dans ce monde, la Ségoula ne pourrait se dévoiler que par l'intermédiaire de la Bechira. En d'autres termes, t'es né juif, t'es kadosh. T'es un pourri, t'es quand même kadosh à l'intérieur, mais chaval, tu le dévoiles pas, et en plus, la Kedusha, due à tes actions, bah tu l'as pas. Quand t'es un mec bien, bah non seulement la Kedusha liée à tes actions, tu l'as, et en plus, tu dévoiles au grand jour celle qui était là de toute façon. Ok? Donc nous dit Pharaon, les 10 plaies ont montré la Kedusha de la Ségoula, de votre identité profonde. Il est temps maintenant de vérifier la Kedusha de la Bechira. Est-ce que, au niveau de vos actions, vous méritez de sortir d'Égypte?
Parce qu'il y en a qui sont des juifs, mais qui font rien.
Ah bah oui, voilà. Est-ce que vous méritez votre sortie de l'exil, ou pas
là, mais zéro.
Et c'est donc pour ça que maintenant, Pharaon les poursuit. Est-ce que vous méritez au niveau de vos actions? Et là, franchement, ben, le bilan n'est pas beau. Le bilan n'est pas beau. Ah, je vous le dis, messieurs, dames. Le bilan n'est pas beau. On ne mérite pas de sortir d'Égypte à ce moment-là. C'est quoi les actions des juifs à ce moment-là? Combien de styles de juifs vous pouvez trouver sur la plage?
Quatre.
Quatre. C'est quoi ces styles? C'est quoi? Ah, c'est pas toujours les quatre fils de Pessah. Il y a ceux qui prient.
Ceux qui crient.
Ceux qui
crient.
C'est pas les mêmes? C'est pas les mêmes?
Ah, ils crient
au beurre.
Voilà, il y a ceux qui ne crient pas vers le...
Alors attends, il y a ceux qui prient, il y a ceux qui crient, il y a ceux qui veulent se battre.
Ceux qui veulent avancer.
Eux. C'est quoi les râleurs pour toi? C'est quoi les râleurs? Ça c'est tous les juifs, hein, les râleurs. C'est tous les juifs, ça.
Mais si on n'est pas râleur...
Ouais, ça, c'est les quatre.
Si on n'est pas râleur, on n'est pas juif.
C'est ça. Tu plaisantes, mon ami, regarde.
C'est comme ça qu'on a avancé dans la vie.
La notion de râlitude, c'est une notion juive par excellence. Mamache, c'est tellement dans la conscience commune et populaire juive qu'un juif, ça râle. Particulièrement peut-être chez les Ashkenazim, qu'il y a un film qui est complètement nul, qui il y a 20 ans, 30 ans, je sais pas, qui s'appelle Le Marteau Juif. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, à l'époque je l'avais vu en anglais, il s'appelle The Hebrew Hammer, le marteau hébreu, et c'est quoi l'histoire? Alors, c'est complètement déjanté, hein, attention, hein. Complètement fou, c'est l'histoire en fait, le Père Noël. C'était un Père Noël très sympathique. Il était pour les amitiés judéo-chrétiennes et tout ça. Mais son fils n'est pas du tout dans le style. Il est complètement antisémite et il a tué son père, a repris l'affaire familiale et maintenant son objectif est de détruire Hanouka. Ah, c'est ça le sujet du film. Et le pentagone juif, donc tu vois un pentagone en forme de Magen David, réunit tous les trucs, tous les gens, machin, avec un mec qui est censé être un représentant de Moshe Dayan, avec, il dit, bon, il faut faire quelque chose, on va envoyer le Hebrew Hammer, le marteau juif, sauver Hanouka. Et c'est un jeune juif qui est habillé en rabbin, mais en fait qui est Gibor Al, et qui doit sauver Hanouka. Maintenant, il est donc convoqué dans ce pentagone juif. Mais pour rentrer, il doit passer toute une série de tests pour prouver sa judaïté. Alors, c'est les premiers tests. Alors, il est dans une salle et il doit dire tous les éléments qu'il y a sur le plat du Seder. Un juif, il doit savoir ça. Donc, il donne les éléments. Ça, c'est le test facile. Après, il rentre dans une autre salle. Il doit parler, non, je sais pas, ouais, les noms d'Abraham, je sais pas quoi. Après, il rentre dans la dernière salle, enfin, ce qu'il croit être la dernière salle. Il rentre dans une salle et il y a une machine avec un trou et on lui fait vite comprendre qu'il doit il doit y mettre une petite chose pour vérification et donc il met et puis t'entends la voix de l'ordinateur qui dit circoncision confirmée. Et après il pense qu'il a terminé et il rentre dans une salle et il se passe rien, il n'y a rien, il n'y a personne dans la salle et il n'y a rien. Et en fait tu vois qu'au bout de 10 secondes il commence à se plaindre. Il commence à dire, c'est pas possible, mais pourquoi je suis venu, machin, hein. Et en fait, de l'autre côté de la salle, il y a le commandant qui est là, et il y a une flèche, en fait, qui est en fonction des plaintes. Et donc, il y a une petite plainte, petite, femme enceinte, et à la fin, c'est juif. Et donc, une fois que la flèche arrive à juif, alors les portes s'ouvrent, c'est bon, là, c'est sûr, t'es juif. C'est-à-dire, donc le côté plainte, c'est les quatre. C'est-à-dire, c'est l'or à Kechat. Bon, en tout cas, hein, bon, à la fin, il sauve Hanouka.
Ah, d'accord.
Ils doivent revenir à Jérusalem, parce que c'est à Jérusalem qu'il y a l'horloge des fêtes juives. Et le Père Noël voulait détraquer cette horloge-là. Et donc, tu vois la roue, c'est la roue de la fortune avec les fêtes juives. Et donc, tu as toutes les fêtes juives. Parmi les fêtes juives, alors bon, c'est un truc, c'est les Américains qui ont fait ça, mais je pense qu'on peut transposer ça en mode français aussi. Parmi toutes les fêtes, donc, tu as Pessah, et puis t'as une des fêtes, les soldes chez Macy's, c'est la partie des fêtes juives. Machin. Bon, je pense qu'on peut transposer ça dans toutes les cultures. Quoi qu'il en soit, le marteau juif, The Hebrew Hammer. Bon, en tout cas, à la fin du film, pas de film là, mais de notre film à nous, Bémet, il y a quatre trucs. Donc on a dit ceux qui veulent prier, ceux qui veulent se battre, ceux qui veulent crier, alors je ne sais pas si c'est à ça que tu fais allusion, mais ceux qui veulent
retourner,
baisser les bras, et ceux qui veulent retourner. Ceux qui veulent baisser les bras, ceux qui veulent mettre fin à leur tourment. Ni Paul Laya.
Ceux qui veulent baisser les bras.
Il y a ceux qui veulent se suicider. Et il y a ceux qui disent on rentre en Égypte.
D'accord.
Ok ? Donc on a quatre styles. Seulement ces quatre styles-là n'amènent aucun mérite. Aucun des quatre ne met du mérite. Parce que quelqu'un qui, lorsqu'il est face à l'adversité, décide de se rendre, c'est pas un mérite. Retourner en Égypte, c'est pas un mérite. Quelqu'un qui décide de mettre fin au tourment, bah, c'est évidemment pas un mérite. Quelqu'un qui se met à prier, c'est-à-dire se réfugie dans le spirituel quand tout va mal, c'est pas un mérite non plus. Et quelqu'un qui est le dos au mur et donc qui donne un coup dans le mur pour avancer, c'est un réflexe. C'est pas un mérite.
Non, mais il faut donner des cadeaux.
Comme il c'est pas un mérite. Porte. C'est pas un mérite. Je suis tombé sur une vidéo là, quand j'étais à New York. Absurde, invraisemblable. Dans le métro parisien, vous êtes sûrement tombé dessus peut-être aussi. Il y a deux touristes américains dans le métro. Et donc un homme et sa copine, je sais pas quoi. Et il y a un jeune musulman dans le métro qui l'insulte, qui insulte la fille. On voit pas ce qui s'est passé au début. Mais on voit l'insulte. Je vais te tuer, je vais te faire mal et tout, machin. Tu comprends pas, je vais t'éclater, tout ça, machin. Hein. Et les deux sont stoïques. Genre, on le regarde pas, machin. À un moment donné, il lui met une grosse paf à la fille. Et c'est seulement à ce moment-là que le copain, il intervient. Ben non, il n'y a pas de mérite. T'as eu un réflexe. Ça fait une heure qu'il lui tourne autour et qu'il l'insulte. Et toi, tu fais rien. C'est l'homme à team. C'est le réflexe. Bon, ça montre que tu n'es pas complètement endormi. Mais ce n'est pas un mérite en soi. Donc, les quatre styles de juifs qu'on trouve là, c'est pas un mérite. À ce moment-là, Moshe, qu'est-ce qu'il fait ?
Il prie.
Il y a marqué ici, il est. Vaïtsakou ben Israël el Hashem. Vaïomer Moshe el Am. Al tiraou.
7.
7. Ityatsevou. Vous savez quoi, Ityatsevou ? Gardez-vous.
Soyez prêts.
C'est à qui il dit ça ?
Reprenez-vous.
À qui il dit ça ?
Ceux qui veulent se battre.
Non. Oui, ceux qui veulent tomber dans l'eau, il dit hop, 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 hop. Personne ne tombe. Personne ne saute dans l'eau. Non, non, et je t'ai vu. Tu reviens. Ityatsevou, Rehu et Yeshua Tachem. À ceux qui voulaient retourner en Égypte, il leur dit excusez-moi, ceux qui veulent retourner en Égypte, qui acher reitem et Mitzrayim ayom, lotosifu lirotam od adolam. Là, vous voyez les Égyptiens ? Dernière fois qu'on les voit. Terminé. À ceux qui voulaient se battre, il leur dit Hachem ilachem lachem. C'est pas à vous de vous battre, vous n'êtes pas capables. Et à ceux qui voulaient prier, il leur dit Ve'atem tacharishum. C'est-à-dire taisez-vous.
C'est pas le moment.
C'est pas le moment. Sauf que qu'est-ce qu'il fait après ça ? Ben Moshe, il prie Dieu.
Il prie.
Et là, Dieu lui répond regardez, sautez deux secondes à la source numéro 10.
Il engueule.
Vraiment, Hachem el Moshe.
C'est pas le moment.
Matitsa Kelaï. Mais pourquoi il lui dit Matitsa Kelaï?
Parce qu'il a l'autre ange là-bas, en haut, qui est en train de le pour le.
Je peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. Daber el Bene Israël Veïsaou. Les seuls qui peuvent aider, c'est les Bene Israël. Dis-leur de faire quelque chose qui va faire pencher la balance de leur côté. Parce que pour l'instant, je suis aux prises au tribunal céleste avec un vrai problème. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous aider. Faites quelque chose.
C'est le truc de la justice.
Bah évidemment. Et donc à ce moment-là, bah, on fait pencher la balance. Et comment on fait pencher la balance ?
En se jetant à l'eau.
L'argent mais rien. Et il fait quoi ?
Il se jette dans l'eau.
Ou non c'est un ? Ou non c'est un ? Il avance. Pourquoi il avance? Parce qu'on a dit d'avancer, on avance. C'est un coup d'âme.
S'il n'y a plus d'avancée, il n'y a plus d'histoire non plus.
S'il n'y a plus quoi?
S'il n'y a plus d'avancée, il n'y a plus d'histoire non plus.
Pourquoi il n'y a plus
d'histoire?
Ah, s'il n'avance pas, tu dis?
Ah oui,
ah, oui, oui, il n'a rien à voir. Mais la question,
non,
c'est pourquoi.
C'est qu'il le coince en avançant.
C'est pas qu'il y a plus d'histoire.
Il coince qui?
Bah, le tribunal céleste. C'est Hachem qui décide, en haut ou non?
Bah non.
Bah si.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
À partir du moment où il avance.
Qui avance? Personne. Ouais.
À partir du moment où il avance.
Ouais.
Donc il y a forcément, il rentre dans la continuité d'une histoire. Si il ne l'ouvre pas, dans ce cas-là, ça coince. Ça peut pas. Il est obligé de. Bah bien sûr, il est obligé de taper du poing.
Non, il y a la volonté de.
Deux secondes. Si Dieu. Si, imaginons que Narshon n'avance pas.
On vient de dire que Dieu, il a pas la parole.
Si Narshon n'avance pas. Toi, tu dis, de toute façon, Dieu va nous faire sortir d'Égypte.
Non, c'est pas ce que j'ai dit.
Ah, j'ai pas compris.
J'ai dit que à partir du moment où il avance, il y a forcément une continuité dans l'histoire. S'il n'avance pas.
D'accord.
Donc ça, tu peux pas suivre.
Donc c'est pas Dieu qui décide.
Si, c'est malgré tout lui qui décide.
Mais qui fait avancer Narshon?
Ah.
Bah c'est pas ah.
Si.
Non. Qui fait avancer Narshon?
C'est lui-même.
C'est Narshon.
C'est Narshon.
C'est pas Dieu.
C'est pas Dieu.
Oui, mais à partir du moment où il avance, la chose, la donne, elle change.
Ah, tout à fait.
C'est nous.
Bien sûr. Mais qui a fait que la donne change?
C'est
Narshon. Bien sûr qu'une fois que Narshon y monte.
Non, c'est pas ça. C'est que si dans l'esprit de Narshon,
oui.
Quand il avance, il sait très bien qu'il va y avoir une réaction.
Mais évidemment, chaque action entraîne une réaction. C'est évident.
Oui, mais c'est pas sûr. Quand quelqu'un il rentre dans une action,
ouais.
Il n'est pas sûr forcément du résultat.
Narshon.
Là, il y a quelque chose qui.
Mais Narshon non plus n'est pas sûr du résultat.
Sûr.
Narshon est sûr que Dieu lui a dit d'avancer.
Il fallait décider.
Donc il avance. Mais c'est lui qui décide d'avancer. Il sait pas que la mer va s'ouvrir.
Le seul point, c'est que à partir. Quand on fait une action, on n'est pas forcément sûr des résultats.
Là, mais lui non plus, il n'est pas sûr.
Ah, non, je ne suis pas d'accord.
Alors, toi, tu penses qu'il sait que la mer va s'ouvrir?
Je pense qu'il sait qu'il va y avoir une réaction.
Je peux pas argumenter. Je suis pas dans la tête de Narshon. Mais je vois pas d'où tu sors ça.
Parce qu'il sait qu'il forcément il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il ne peut pas. Ouais, c'est la fin du film.
Toi, tu la connais, la fin du film.
Non, c'est pas ça. Il les a sortis d'Égypte. Il a fait toutes ses actions.
Comment est-ce qu'il a avancé Narshon? Comment il a avancé Narshon? Il a mis les pieds dans l'eau. Ouais. Donc on en est resté à l'histoire du Gan. C'est-à-dire que ma fille, elle va me raconter encore cette semaine que Narshon il est rentré dans l'eau et il a avancé. Et l'eau elle est montée. Non, je ne sais pas.
Non, c'était le printemps, c'est vrai.
Et il y a un glou-glou, et une fois que c'était là, il y a fait mode dans la pyrotechnique du GAN. Je ne sais pas du tout si j'arrive à représenter la chose suivante. Parce que Narshon, il n'est pas bête. Il ne fait pas partie de ceux qui ont dit on se jette à l'eau et on va mourir. Qu'est-ce que ça veut dire Narshon, il est rentré dans l'eau? Narshon, c'est pas n'importe qui d'ailleurs. Narshon, c'est le chef de la tribu d'Yehuda. Qui est le chef des Bnei Israël. Donc si Narshon il fait un truc, il y a de fortes chances qu'il y a plein de monde qui l'ont suivi. Ok? Et donc Narshon, quand il a dit on y va, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bon les gars, allez vous me ramassez des rondins de bois, vous prenez des cordes, allez on fait des radeaux, c'est parti, on y va. Dieu il a dit on avance. Il savait pas qu'il allait avoir le miracle, mais il sait qu'il faut avancer.
Non, il sait qu'il va se passer quelque chose.
Que peut-être que ça va marcher, qu'on avance, qu'on va traverser la mer, machin.
C'est comme les
il a confiance.
À la fin, il a écrit ça. Si vous n'êtes pas sur le ça, tu es bloqué. Alors, le Waze.
Oui.
À la fin.
On oui, ça.
Ouais. Et te dit ça.
Ouais.
Si tu
mais si t'as pas mis où tu veux aller.
On y va. On y va.
Non, c'est pas vrai. Parce que d'abord, j'ai un grand problème avec Waze parce que Waze nous encourage à être des menteurs.
Ouais.
Toute personne qui utilise Waze est un menteur.
Il doit montrer qu'il ne conduit pas.
Exactement, il a dit toujours qu'il ne conduisait pas, alors que c'est un menteur, c'est en général lui qui tape sur le Waze. Nahon, avant de commencer, il te dit, est-ce que tu conduis? Tu lui as dit, non. Tu es un menteur. Il sait qu'il faut avancer, mais il ne sait pas comment ça va se passer. Lui, il va avancer. Ça veut dire quoi qu'il va se passer quelque chose? Il y aura un miracle?
Il va y avoir quelque chose qui va se passer.
Peut-être que ce qui va se passer, c'est que tout simplement,
on va avancer. C'est pas seulement là qui décide quelque chose. Il a décidé aussi dans l'histoire de Moshe avec les filles de... quand il a transpercé le...
Plus tard.
Non, mais ça veut dire que c'est un homme qui prend des décisions.
Mais il n'y a rien, mais un archon, c'est un archon. Celui qui avance. Oui.
Avec cette discussion sur Narchon, on est loin de la description que la Torah nous a donnée.
Pourquoi ?
De ce qui s'est passé.
Pourquoi ?
Ben, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que d'abord, Hachem a commencé par mettre une séparation entre les Égyptiens.
Tout à fait. Oui. Ça, c'est pour discuter. C'est pour donner le temps de discuter. Tout à fait.
Ensuite,
toute la nuit.
Il a fait souffler un vent.
Oui.
Qui a asséché la mer.
Ouais.
Donc, cette question, cette discussion de Narchon, machin, c'est pas là comme ça que la Torah nous montre.
Ah,
mais le vent, il a peut-être soufflé à partir du
moment où tu m'obliges à rentrer. Tu m'obliges à rentrer dans le Midrash Tanhuma. J'étais dans le Midrash Rabbah, tu m'obliges à rentrer dans le Midrash Tanhuma maintenant. Et bien, tu as raison. Tu dis qu'il y a eu Ruach Kadim Azza Kol HaLaila. Toute la nuit, Dieu a fait souffler un vent. Ça laisse donc penser que les choses se font de manière... Quoi ? Non, la nuée, elle sécurise le peuple. Le vent, c'est pas le vent, oui, mais c'est pas le vent qui sécurise le peuple. Non, la nuée de feu, elle fait que on a le temps. Ok. Et après, il fait souffler le vent. Ce qui laisse à penser que la mer s'est ouverte de manière...
naturelle.
Je sais pas si c'est naturel. C'est Dieu qui fait souffler le vent. Mais de manière petit à petit.
Progressive.
Tu dis, il y a un vent qui a petit à petit enlevé l'eau.
Pas forcément.
Alors, c'est quoi la notion de Roi Hazim Azza Kol HaLaila? Pourquoi on a besoin de savoir qu'il a soufflé toute la nuit?
Le vent a soufflé. Pendant un certain temps, arrivé
à
un certain moment, ça pète.
Non. Non, si c'est ça, alors ça, c'est plus littéral. Parce que le verset nous dit justement que l'eau, elle s'est ouverte parce que le vent, il a soufflé toute la nuit. Ce qui a permis de créer un passage pour les Bnei Israël. C'est justement la notion de ça a soufflé toute la nuit. Ruach Kadim Azza Kol HaLaila.
Il y avait deux murailles de chaque côté.
Ça, c'est une fois que c'est ouvert. Maintenant, pour que ça s'ouvre, on nous dit que ça a soufflé toute la nuit. D'un autre côté, dans le même verset, on nous dit « Vayibak ou amaim » et « Bekia », ça amène la notion de séparation immédiate. Et donc, c'est deux notions qui s'entrechoquent. Est-ce que c'est le vent toute la nuit ou est-ce que c'est pouf ? Alors, ça rejoint, pour rejoindre cela, eh bien, il y a ces deux interprétations du Midrash qui te parlent, un, de Narchon, et donc l'histoire de Narchon te laisse à penser que c'était du pouf, alors qu'il y a une autre histoire, on oublie souvent de dire que les premiers à avoir voulu rentrer dans l'eau, c'était pas Narchon, mais c'était la tribu de...
Le Benjamin.
Enfin, qui ont voulu rentrer. Qui ont voulu rentrer, et ils ont dit, là, attends, on y va. C'est-à-dire qu'on a deux façons de voir la Géoula. Est-ce que ça se fait léat léat ou est-ce que tu attends que ce soit pouf? Mais dans tous les cas, que ce soit pouf ou de manière doucement, progressive, il y a une question qu'on n'a pas posée. Et Narchon, et les autres, pourquoi ils ont attendu tellement de temps avant de faire ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils n'ont pas fait tout de suite en arrivant au bord de la mer, on avance? Parce que pourquoi? Ils sont en stress? Ça fait trois jours qu'ils avancent. Non mais avant même que les Égyptiens soient bloqués. Quand ils arrivent devant la mer. Pourquoi ils n'avancent pas? Avant que les Égyptiens arrivent. Les Égyptiens vont arriver et Dieu va les bloquer. Moi je te parle avant ça.
Ouais, mais quand tu te trouves devant l'eau, tu hésites un peu.
Bah, Hanou Alayam. C'est-à-dire, ils sont arrivés, ils ont dormi. C'est-à-dire, le lendemain. C'est passé quand même trois jours.
Il fallait traverser
l'instruction à l'étape, on avance.
On avance.
Il
n'avait pas confiance en Dieu, peut-être.
Non, c'est
pas qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu.
Parce que.
C'est pas qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu, Rabotaï. Il y avait quelque chose qui les empêchait d'avancer.
Le vent.
Le vent, ça empêche d'avancer le vent. Pas de chute.
Côté, le désert.
Non, bah, y avait le désert à gauche et à droite, il y avait la mer devant. Mais il y avait quelqu'un qui disait quelque chose, il a empêché d'avancer. Moshe.
Prier.
Moshe, il est devant. Donc Moshe, s'il n'avance pas, on n'avance pas. C'est pour ça. C'est quoi?
Il l'a dit.
C'est quoi?
Il les attendait les instructions de Moshe.
Oui, oui. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui les empêche, c'est Moshe. Et c'est pour ça que Dieu dit à Moshe, Daber el Bene Israël veïsaou. Regardez ce que dit dans la sens numéro 11 le Meshech Chochma. Regardez ce que dit le Meshech Chochma. Meshech Chochma, il dit, Daber el Bene Israël veïsaou. Nire de mefaresh de chol Bene Israël, alchou achar Moshe ketson babika achar aroe. Les Bene Israël allaient derrière Moshe comme des moutons allaient derrière leur berger. Omnam bayam, tziva akadosh baruchu le Moshe. Sheisa acharei ha'am. Vehemma be'emun natam sicha bo yelchu betoch hayam. Ubizchut ha'nesiyah sheyavohu toch ha'mayim bayam yibaka lahem hayam. Dieu a dit à Moshe, tu peux t'écarter s'il te plaît. Tu gênes. Tu vas te mettre derrière s'il te plaît. Parce que tu n'arrêtes pas d'être là. Et les Bnei Israël, ils ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités tant que tu es là. Parce qu'ils se disent, le rabbin, il est là, donc on n'a pas besoin d'agir, nous. Le rabbin, il va agir. Tu vas les laisser agir maintenant. Tu vas les laisser agir parce que j'ai besoin que eux montrent qu'ils ont un niveau. J'ai besoin que eux montrent qu'ils ont un mérite. Que toi, tu es au-dessus de l'Égypte, c'est pas un débat, tout le monde le sait. Mais eux, ils ont besoin de le montrer. Donc fais-leur de la place. Donc pourquoi Pharaon nous a poursuivis? Pour qu'on soit capable de lui montrer qu'on mérite, pas seulement au niveau de notre essence, mais au niveau de nos actions, d'être ceux qui veulent dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Vemaase avot, siman labanim. On ne peut pas attendre que le rabbin de la communauté il fasse. Il faut que la communauté, elle décide de faire. Il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on soit ceux qui dévoilent la Kadosh Baruch Hu dans le monde. Pas seulement que le rabbin il fasse son boulot, mais qu'on soit ceux qui dévoilent la Kadosh Baruch Hu dans le monde.
C'est-à-dire que par définition, on pense toujours que le rabbin c'est le plus intelligent, le plus apte. Et automatiquement, on se met en retrait parce qu'on dit, nous, par rapport à lui, qu'est-ce qu'on, etc. On a un petit peu des complexes. Parce que c'est le rabbin, et parce qu'il fait beaucoup de choses. Et parce
écoute, dans mon voyage, je terminerai par là, dans mon voyage new-yorkais, j'étais Shabbat matin dans une synagogue, un véritable temple, magnifique, c'est un ancien théâtre qui a été rénové en synagogue, un endroit avec des dorures partout, du marbre et tout ça, machin, magnifique, une opulence, dans un bâtiment qui appartient à la communauté juive depuis 100 ans, un truc énorme. On est en plein milieu de New York, donc c'est des bâtiments. Je te parle même pas du kidouche. Le kidouche après, il était très bon, mais il était très très bien. Le rabbin et ses acolytes, les membres du board, étaient en chapeau haute forme. Hein? Que de pie, mon ami.
Waouh.
Que de pie et chapeau haute forme.
Ils ont cru qu'ils étaient à Buffon. Ouais.
Non, c'est Buffon qu'ils ont cru qu'ils étaient là-bas. Et tout était protocolaire. Tout était protocolaire. Je leur ai dit que j'avais besoin de faire Gomel. Alors, ils m'ont donné de faire Gelila. Gelila, on refait. C'est-à-dire qu'il y a celui qui lève le sefer et après il y a celui qui ferme le sefer. Ok? Donc j'ai fait Glila maintenant. Moi j'ai déjà fait Glila. Mais pas de problème. Tu montes, tu fermes et shalom à l'Israël. Ah non. Je devais faire partie du cortège protocolaire. Je vais m'asseoir devant tout le monde, sur les grandes chaises, devant toute l'assistance et machin, et attendre que. Et faire tout le tour avec le sefer Torah et machin. Et bon. Sauf qu'il y avait également, est monté en maftir, le papa du la Brit Mila qui avait lieu ce Shabbat-là. C'est mort. Et donc à la fin, on lui a fait un Miché Bérach. Et les gens ont dansé de manière protocolaire. C'est-à-dire que personne ne s'est levé de sa chaise, de l'assistance. Seuls les gens qui étaient à côté de la Bima ont fait un tour. Et j'ai dit au Rav, pendant le kiddush, je lui ai dit, Avalama, ma tamikaven. J'ai dit, lama la sim gderot, pourquoi mettre des barrières à la simcha et de mettre des barrières à la façon dont on a envie de laisser s'exprimer notre relation à Dieu. Il m'a dit, Roé ani bedvarecha. C'est très comme ça. Roé ani bedvarecha. Chez Kvod Arav Bam Eretz Israël. Il m'a dit, on voit par tes paroles que tu viens d'Eretz Israël. Avant Lama, qui etzlechem asimcha it partzut achayim. Il dit, parce que chez vous, la joie, c'est ça jaillit de la vie. Etzlenu.
C'est difficile.
Asimcha, il tricha liot yezuma. Il dit, chez nous, en Chutz La'aretz, la simcha, on doit l'initier. Elle ne sort pas tout seul. Donc on est obligé de faire des trucs. Tac, tac, tac. Moshe, quand il était en Égypte, il était obligé d'être le rabbin qui cadre tout et qui donne le top départ de la danse et le top arrêt de la danse et le top truc, machin. Quand on sort d'Égypte, Dieu veut apprendre à Moshe la prina d'Eretz Israël. Laisse-les faire. Toi aussi, tu vas danser, mais tu danseras après. Tu te mettras derrière eux et tu danseras avec eux.
C'est ce qu'ils ont fait, regarde où on est.
Bon, Rache. Ça va?